comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vous.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un acteur réalise son film, un metteur en scène joue dans celui d'une autre, une chorégraphe orchestre, et ces trois films vont les révéler autrement. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Oui, dépasser les limites d'un rôle, réaliser ses désirs, un film pour raconter comment deux êtres si proches, un père et son fils, sont si étrangers l'un à l'autre. Bonjour Samir Ghesmi.
Bonjour Christine.
C'est le sujet de votre première réalisation, Ibrahim, il sort mercredi prochain. Elle aime ce mot, détourner, se réapproprier un espace, des codes sociaux, des postures. Bonjour Bintou Dembélé.
Bonjour Christine.
30 danseurs de hip-hop réunis et orchestrés par vous sur la scène de l'Opéra Bastille, croisés avec le chant lyrique pour réinventer l'œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, le tout dans un film Anne Galante de Philippe Béziat, il sort mercredi prochain. Tandis que sort le 3 juin, l'histoire de cette famille et de ce pays, le Liban. Bonjour Wajdi Mouawad.
Bonjour.
Dramaturge, metteur en scène, comédien, mais très rare au cinéma. Vous êtes Joseph dans ce film Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow. Joseph, astrophysicien et père d'une famille heureuse jusqu'à ce que la guerre civile au Liban s'immisce dans votre paradis. Trois films, trois bijoux précieux. Ce matin, enfin, les sorties nombreuses de ce nouveau mercredi. Les deux Alfred à Douce France, on va dire que c'est parti.
Comment tu t'appelles ?
Ibrahim Bougaoui.
T'as quel âge ?
17 ans.
T'habites où ?
159 boulevard Kellerman.
Qu'est-ce qu'ils font, tes parents ?
Mon père, il travaille dans une brasserie.
Il fait quoi comme travail ?
Il est chef de rang.
Deux. Chef de rang.
Ah oui, chef de rang.
Dans quelle brasserie ?
Royal Opera, à l'Opéra.
Et ta mère ?
Elle est pas là.
Elle est pas là au travail ?
Non, pas là, pas là.
Tu vas pas à l'école ?
Si.
Bah non. Tentative de vol, délit de fuite, dégradation de matériel, c'est pas aller à l'école, ça.
T'as dit Royal Opera, c'est ça ? On va appeler ton père, c'est tout.
Non mais...
T'as dit quoi ?
Pas mon père.
Si ta mère est pas là, faut bien qu'on appelle quelqu'un, non ?
Le thème est posé, celui de votre premier film, Samir Ghesmi, Ibrahim, un père et son fils, en vase clos dans une HLM du 13e arrondissement. Ibrahim, embarqué dans un mauvais plan de vol à l'étalage, son père devra payer la dette et cet argent le privera de ses rêves de promotion dans la brasserie. Voilà pour la dramaturgie. Le reste, tout le reste, c'était en fait raconter la difficulté de communiquer et l'incapacité de mettre des mots sur des émotions entre un père et son fils. C'est ça le cœur du film.
Ouais, c'est ce que vous comment vous l'avez introduit, c'est comment deux personnes aussi proches, effectivement, qu'un père et un fils puissent être à la fois et qui vivent sous le même toit, puissent être à la fois si étrangers l'un à l'autre et qui veulent à la fois qui se veulent que du bien et qui n'y arrivent pas, enfin de prime abord. Et un jour, Ibrahim va se laisser entraîner à faire une énorme connerie qui va priver Ahmed, son père, de quelque chose de précieux pour lui, d'important pour lui. Et ben, cet accident va être prétexte à ce qui se retrouve, quoi. Enfin, qui se trouve même.
Le précieux pour lui, il faut le dire, c'est une prothèse dentaire qui lui permettra d'accéder au rang de chef de rang dans un restaurant.
Ah ouais, on dit jusque là.
Parce que c'est un sacrifice important qu'il fait en remboursant cette dette de vol à l'étalage. Donc, ça le prive d'une promotion.
Ouais, d'une promotion sociale, d'une présentation au monde, parce que il est du coup sans prothèse, ça veut dire qu'il est un petit peu un peu dégradé physiquement,
il
visuellement.
Comme disait l'autre,
s'en fout un peu. Parce qu'on m'a demandé si c'était en réaction, mais naturellement pas.
C'est un bon choix parce que c'est ce qui coûte peut-être le plus cher en matière sociale en France en ce moment, le remboursement dentaire.
C'est vrai que ça coûte très bon choix. Ça coûte très cher.
Socialement, ça a du sens. Oui.
Il y a la complexité pour un adolescent aussi d'échapper justement au déterminisme social et culturel. C'est ça l'idée, en fait.
Ouais,
aussi.
C'est ça. Force. Et l'amour et les rencontres et la curiosité du gamin, enfin, et les opportunités surtout qui vont se présenter à lui vont le sauver, en fait. C'est, c'est comment on s'auto-façonne, je sais pas comment le dire autrement, mais comment on se conditionne même soi à aller vers le truc déjà prévu, quoi, soit le métier, soit la condition sociale, et comment on se l'autorise même pas, en fait. Et grâce à Louisa, mais là j'en dis pas plus, ben...
Non, mais par rapport surtout à un père qui s'autorise pas non plus.
Non, qui s'autorise pas, mais qui a
il a un modèle taiseux face à lui.
C'est un modèle taiseux avec des circonstances atténuantes, qui a une vie plus que dure, qui a un monsieur qui se lève très tôt le matin, qui va bosser, un métier dur, il ouvre des huîtres, alors ça a l'air de rien, mais il ouvre des huîtres tous les matins, il est écaillé dans une brasserie parisienne, il ouvre des huîtres tous les jours, il ouvre des centaines et des centaines d'huîtres par jour, qui ventent ou qui fassent soleil. Et il est dehors, il voit le monde comme un spectateur, et il s'imagine, la vie est rude avec lui, mais il n'est pas victime parce qu'il se tient droit, il est digne, il a des valeurs, et il veut absolument, mais absolument, même de manière totalement obsessionnelle, les transmettre à son fils, d'une manière ou d'une autre. Donc ça le rend un peu dur, un peu rude et avec l'air un peu inaccessible, alors que c'est tout l'inverse.
Ça fait penser aussi à Matt Kourisma, qui, vous savez, quand on dit que ce cinéaste filme la possibilité d'être un humain sur Terre, c'est un petit peu ça l'idée aussi du film.
Bah ouais, comment on se dépatouille, en fait, comment on s'extirpe de... Moi, je pense qu'on aime comme on a été aimé, c'est-à-dire qu'on reproduit des schémas, malheureusement, et à partir du moment où ce schéma pète, ce qui va se passer dans le film, ça commence à être un peu possible. C'est un peu évaporé, ce que je dis, non ?
Non, pas du tout.
Non, clair.
Il parle peu, mais en tout cas là, le père va le rejoindre devant le stade de football et enfin réussir un petit peu à lui parler.
Papa ! Papa !
T'es pas vu, t'étais où ?
J'étais sur le banc.
Quel banc ?
Le banc des remplaçants.
Tu joues pas ?
Pourquoi tu joues pas ?
À quoi ça sert que tu le laves ?
Quoi ?
Bah ton maillot et ton short, là, si c'est pour que tu restes assis. Tu sais combien ça coûte une licence ? Tu sais combien ça coûte ? Tu sais combien je la paye ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Même au foot, tu sais quoi ? De quoi t'es capable ? Enlève ça.
De quoi ?
Ça et ça, enlève-le. Enlève ça. Va avec les autres.
Mais je peux pas.
Va jouer. Amuse-toi. Va jouer. Va avec les autres.
Samir Ghesmi, vous avez des modèles en tête par rapport à ce film. Vous parlez du cinéma italien d'après-guerre, notamment.
Ouais, oui. Après, c'est pas des modèles, c'est des inspirations, et je me compare naturellement pas à eux, mais De Sica avec Le voleur de bicyclette, c'est un film que je regarde assez régulièrement comme des livres de chevet. Il y a Coris Tami, que j'aime beaucoup, notamment Le Passager, qui est son premier film, qui raconte l'histoire d'un gamin dans la banlieue de Téhéran, qui va aller voir son équipe jouer à Téhéran, et il va faire tout pour aller rassembler l'argent qui va lui permettre d'y aller. Et oui, il y a François Truffaut, il y a Claude Sauté, il y a
du monde derrière.
Ouais, il y a plein de gens que j'aime, en fait. Il y a plein de cinéastes que j'aime beaucoup.
Il y a un peu de Solveig Anspach aussi, peut-être.
Il y a Solveig.
Mais je pense qu'il faut la citer parce que
bien sûr que je la cite.
Ça fait, c'est peut-être un fantôme parmi les fantômes
bien
du
sûr,
film.
Bien sûr, bien sûr. Ben oui, bien oui, bah oui. Il y a Alain Gomis aussi. J'ai envie de citer tous les gens que.
Et puis il y a votre cinéma, puis il y a votre père.
Puis il y a mon papa, ouais.
Ben oui.
Pour qui le film existe, ouais, et à qui j'ai dédié ce film.
C'est ça le déclencheur du film, de la volonté de filmer, de devenir cinéaste, de passer à l'autre statut?
Je sais pas par rapport au métier de cinéaste, mais en tous les cas par rapport à cette histoire, ouais, c'était cette obsession que j'avais de raconter cette histoire déjà dans le court-métrage, et ensuite fin du court-métrage, je me suis dit oh, voilà, ça y est, j'en ai fini avec cette problématique père-fils, mais l'envie de réaliser, alors là elle s'est révélée, je me suis dit mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de continuer, et je me suis dit bon qu'est-ce que je raconte, et le père revenait, et Ibrahim revenait, me dit merde j'en ai pas fini,
non.
Donc là j'espère en avoir fini pour pouvoir attaquer autre chose.
La mer.
La mer.
Il n'y a pas de révolte, en fait, chez ces deux-là. Il y en a du côté de Achille, qui dit « on s'en fout de nous, personne ne nous reconnaît ». Il y en a du côté d'elle, Louisa, cette fille qu'il va rencontrer, qui est très puissante. Mais des deux, non, comme c'est pas une fatalité, mais presque ça aussi.
C'est pas une fatalité, et puis moi je pense qu'il y a une révolte, c'est marrant, je pense que c'est comme le cheval de Troie, ça se fait de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est pour moi la révolte elle est pas nécessairement bruyante ou dans l'éclat, elle est pour moi la révolte c'est la caresse que Ahmed, enfin là je spoil pas, mais c'est le rapprochement qu'Ahmed va faire et que Ibrahim va, c'est le rapprochement des deux, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont décider de s'extirper de leur position, de leur ancrage bien collé au sol pour pouvoir aller l'un vers l'autre. Et moi, pour moi, c'est la révolte, c'est cette révolte-là qui m'intéressait. Je disais toujours que mon film, je l'ai construit comme l'acmé principal et la caresse d'un homme sur la joue du fils. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est le point culminant. C'est l'équivalent de mon explosion, de ma guerre, de la révélation la plus grande dans la construction de mon film. Donc je me suis dit, je vais aller vers une caresse sur une joue, et j'ai construit le film comme ça.
Et enfin, d'où ils viennent, c'est très fort. Cette caresse. Voilà.
Et ce que je veux dire, et la révolution ou la révolte, c'est ça.
Et la vôtre, ça a été de devenir comédien. Non mais je sais pas.
Peut-être. C'est vrai que je m'allonge.
Allongez-vous.
Restez assis.
Non mais c'est vrai.
Ouais peut-être ma révolte. Oui ma révolte et puis la rencontre avec les auteurs. Ouais, c'est vraiment à 20 ans ça va dans tous les sens dans ton esprit. C'est pas le plus bel âge pour moi mais pas du tout même et tout se mélange tout est en tension et tu découvres des auteurs et ben qui racontent ce que tu vis. De manière totalement sublimée avec la grâce et tu dis mais voilà mais c'est ça en fait c'est le théâtre j'ai besoin je suis un réceptacle je suis un communicant je sais pas comment un interprète.
Samir Ghesmi, réalisateur donc de ce film Ibrahim qui sort mercredi prochain. Là
magnifique
on change
film.
De cap. Merci. On va sur la scène de l'Opéra Bastille.
Les Ingalantes, c'est un opéra qui date de la première moitié du XVIIIe siècle et qui raconte un peu les quatre coins du monde. Moi, dans le projet du spectacle, je me raconte que le monde est la ville, et que les quatre coins du monde se trouvent dans la ville. Et donc, ça veut dire que la culture urbaine est, quelque part, le premier langage ou la première forme d'altérité dans le spectacle. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu convoquer sur scène un maximum de langages chorégraphiques qui parfois appartiennent à quelques danseurs ou à des groupes très confidentiels, et les faire se rencontrer sur la scène de l'opéra, qui vont du crump au voguing, au popping, au jump style, et que tout ça fasse partie d'un seul monde qui serait notre petite ville qui sera présente sur scène.
Clément Cogitor à la mise en scène de ce spectacle qui fait dialoguer danse urbaine et chant lyrique pour réinventer l'œuvre baroque des Indes Galantes, un opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau. Et dans ce film Indes Galantes, Philippe Béziat a plongé sa caméra dans l'aventure des répétitions. Hip-hop et lyrique sur la même scène, et c'est vous, Bintou Dembélé, qui en a fait appel pour orchestrer ces danses, notamment avec vos danseurs, mais aussi avec le chœur et avec les chanteurs. Vous dites « je suis d'origine hip-hop », ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que toute ma pensée, tous mes gestes sont imprégnés de cette culture états-unienne qui finalement m'a permis de me déplacer, d'essayer de me faire un espace où je pouvais énoncer ma réalité, mes récits.
Vous dites engagé dans un travail de contamination.
Oui, même si aujourd'hui je pense que c'est un peu délicat d'utiliser ce mot-là.
Oui, c'est vrai.
mais on l'a peut-être assez, oui. C'est pas faux.
J'essaye de pas l'entendre aujourd'hui, mais c'est vrai que là, le travail qui a été fait, c'est surtout un travail de détournement.
Oui, vous avez dit déphaser. Il y a aussi déphaser le livret de Jean-Philippe Rameau, parce que c'est sur l'époque coloniale, et vous travaillez aussi dans votre danse sur le fait colonial.
Oui, tout à fait, pour rejoindre ce que dit Clément là, moi j'avais en tête que cette œuvre des Indes Galantes, c'est une commande qui a été faite à Rameau pour fêter le comptoir.
Oui.
Donc une fois que j'ai ça en tête, je sais que je vais vers le chaos, et que ce chaos-là, comment je le mets en lumière, et je le détourne, je le renverse pour finalement prendre cette lumière et énoncer nos récits.
Et voilà, vous travaillez donc avec des stéréotypes pour les déconstruire, puis vous travaillez aussi, vous rassemblez 30 danseurs de 20 à 43 ans, plusieurs styles urbains à faire cohabiter. Comment on fait cohabiter tous ces styles, justement, crump, voguing, électro, breakdance?
Alors, on prend le temps.
Oui.
Parce que finalement, la première chose que j'ai faite, c'est observer le temps qu'on allait avoir. Donc, on nous a proposé de faire une résidence de 1 mois et demi pour un spectacle de 3h40. Ce qui était pour moi impensable, dans l'idée de pouvoir vraiment traverser, de comprendre où on était. Donc on a ralenti le temps, et finalement j'ai essayé d'avoir un maximum de temps pour que les danseurs s'interrogent sur l'œuvre, prennent conscience de l'espace où on allait être, avec la lumière qui allait vraiment être... voilà, c'était 350 ans de l'Opéra de Paris, c'était les 30 ans de Bastille, c'était la première fois qu'il y avait du baroque. Ouais. Donc pour moi c'était vraiment de vraiment avoir le temps d'observer de quelle manière nos danses, parce qu'effectivement il y en a plusieurs qui sont énoncées, le hip-hop, le crump, l'électro, d'autres qui sont pas encore arrivés comme le flexing, comment elles énoncent nos récits, et cette manière de tordre nos corps, de vraiment prendre l'espace, mais aussi de les abîmer finalement, parce qu'en fait quand on regarde cette danse, elle est belle, elle est impressionnante, mais on est quand même dans un rapport très violent à nos corps. Donc pour moi c'est ce rapport-là au baroque qui est intéressant, de dire que cette manière qu'on a de tordre nos corps énonce le cri du corps.
Et comment réagissaient les danseurs par rapport à cette musique? Parce que c'est pas une musique à laquelle ils sont habitués.
La musique, elle résiste bien.
Oui,
enfin, je veux dire, elle est là, la musique.
Ouais,
non, mais c'est vrai, elle est pas retravaillée, elle est pas déconstruite, elle, pour le coup.
Alors, elle est recomposée par Leonardo Garcia Larcón, le chef d'orchestre.
Ouais. Mais pas de façon,
Non, c'est vrai qu'il y a, c'est pas un remix. Ça fait très longtemps en fait qu'en hip-hop on aime se mettre en danger en allant se fronter au jazz, au blues, au classique, à la techno, etc. Et je pense que c'est même là où la partie de rupture et de plaisir elle se trouve. Moi je n'entendais pas la musique de Rameau. Je pense que c'est vraiment avec l'idée déjà de mettre de côté le livret, qui était vraiment très problématique pour moi, et d'essayer de comprendre cette construction musicale qui pour moi permettait justement d'essayer de déployer la manière dont on attrape la musique. C'est vraiment le mot groove qui me vient en tête, cette manière qu'on a de se déployer, même si on est contraint, parce que finalement nos danses énoncent des contraintes de contexte politique, économique et culturel. Elles énoncent des réalités. Le crump, il est né suite aux révoltes urbaines de
dû au
meurtre de Rodney King. J'estime que l'électro, une danse française, est née suite aux révoltes urbaines ici à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, suite au meurtre de Zinaïde et Bouna. Cette torsion là, finalement, cette manière qu'on a de rester debout et de continuer à être en mouvement à travers ce groove dont j'énonce, c'est une manière d'attraper cette musique là et d'énoncer finalement avec cette musique qui est effectivement datée, puisque elle est du 18e siècle, une manière de pouvoir de l'attraper et d'énoncer cette manière qu'on a de prendre l'espace, en fait.
Mais Bintou Dembélé, c'était pas une révolte en vase clos, parce qu'il fallait communiquer avec les autres. C'est ça qui est beau aussi sur cette scène-là.
C'est ça qui est magnifique. C'est là où, avec Clément, c'était assez chouette de dire qu'on voulait casser les hiérarchies, de se dire que là où les solistes, normalement, sont toujours au premier plan et que les autres sont plutôt là pour faire décor, finalement, on a voulu réajuster, et tout le monde s'est mis à danser, à groover, finalement. Et l'idée, c'était ça. Le questionnement premier, c'était comment se rassembler, comment avoir à pouvoir parler ensemble.
On va écouter justement un danseur qui parle de ce mélange.
Moi, je fais du crump, je suis dans l'expression. L'opéra est dans l'expression. Les chanteurs lyriques, ils ont de l'expression. Donc moi, je me sens tout à fait à ma place, je me sens tout à fait légitime de tout ça. Tout ce qu'ils chantent, j'arrive à l'exprimer par ma danse. Et c'est pour ça que c'est si intéressant, en fait. C'est pour ça que le baroque, c'est quelque chose qui nous touche. Parce que c'est quand même une expression qui est forte. Et dans la voix, et dans les paroles, et dans les propos. Les chanteurs lyriques, ils se donnent. Ils donnent leur vie, en fait. Tu sens que ils ont besoin d'être habités par ce qu'ils chantent, pour que ce soit réel. Parce que l'expression artistique, le but, c'est quand même de raconter des choses. Et tout le monde raconte des choses, les corps racontent des choses. tout ce qui est sur cette terre raconte des choses. Et l'expression artistique, c'est le summum pour le faire, c'est tout.
Un travail qui a été rendu possible aussi, donc vous en parliez au metteur en scène, au chef d'orchestre, qui expliquait, au danseur qui expliquait à tout le monde, qui partageait sa passion, parce qu'il est un homme passionné.
Ouais, je pense, bon, effectivement, là, il y a Leonardo qui est un magnifique, en fait, qui aime à partager son expérience. Mais nous avons aussi partagé la nôtre.
Oui.
Et je pense que beaucoup ont été déplacés. Je pense à Sabine Devielle, une des principales solistes qui vraiment était vers nous. C'est vraiment à jouer le jeu, en fait, de danser.
Et surtout à la fin, c'est elle qui va chercher un des danseurs et qui le présente, ce qui ne s'est pratiquement jamais vu.
Tout à fait. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de se dire comment chacun s'est déplacé, a tordu la règle. Celle de l'excellence, parce que finalement, pour moi, l'excellence dite de cet espace de l'opéra tord les corps en soi. Donc à quel endroit on se déplace, on déphase les règles pour en faire vraiment les nôtres. Et à cet endroit-là, effectivement, Sabine a vraiment joué le jeu et c'était magnifique. Moi, ce crump-là dont parle Cyborg,
oui.
C'est vraiment une danse qui m'a énormément touchée parce qu'elle va au fait. C'est une forme de rite pour moi. Et je pense que j'ai essayé de faire de cet opéra ballet autre chose qu'un opéra ballet, mais un rite de passage. Et c'était plusieurs familles, parce qu'en fait, c'est plusieurs danses avec vraiment une manière de prendre l'espace, donc le club, l'électro, la compétition, les scènes. Là, c'était comment on dialogue ensemble et comment on contamine, pour le coup, les solistes, les choristes et finalement. En répétition, on avait vraiment l'impression que ça faisait des décennies, des siècles qu'on nous avait désolidarisés et que d'un coup on se rassemblait et c'est comme si c'était la parole du peuple en fait à travers les musiques, les danses et les voix en fait qui se réunissaient et qui énonçaient le peuple en fait.
Mais en répétition, vous contaminez les autres parce que tous les danseurs à la fin de leur numéro, ils continuent, ils s'amusent entre eux et les musiciens sont estomaqués de les voir continuer après cet effort considérable qu'ils ont dégagé sur la scène, quoi.
Oui, tout à fait, c'est vraiment des deux côtés. Je pense que je me souviens vraiment d'une répétition, on avait la chair de poule en entendant aussi bien les choristes chanter et les danseurs et les choristes de nous voir danser et vraiment d'avoir l'impression qu'on nous avait on nous avait empêché de nous réunir et que les trois soient liés et que cette parole-là, c'est celle du peuple.
Maintenant, l'opéra, c'est chez nous.
Opéra, c'est chez nous.
On est à l'opéra, mais on est en 2019, quoi. Ça va. Ils ont l'habitude, ils vont dans la rue. Ils savent que le monde n'est plus comme, je sais pas, au XVIIIe siècle ou autre. Si ils ont fait ce projet, c'est qu'ils veulent s'ouvrir. Et peut-être qu'ils doivent s'ouvrir aussi. Peut-être que le peuple ou les publics qu'ils ont sont à la demande de ça aussi.
J'avais jamais vu de noir à l'opéra, moi. Jamais de femme noire. En tant que danseuse, j'étais contente, mais j'étais pas contente. J'appréhendais, je savais pas comment les gens allaient le prendre. Les gens de ma communauté, par exemple, j'étais en train de me dire qu'une meuf comme moi allait être, qu'une femme comme moi allait être à l'opéra, qu'est-ce que les gens allaient dire? C'était ça, ce que je me disais.
Bintou Bendele, il y a aussi l'idée de. Dembélé, pardon, il y a aussi l'idée de cette mixité, donc de casser l'image d'un opéra élitiste. Est-ce que vous y êtes arrivé?
Est-ce que c'était mon objectif?
Ouais.
Non, en fait, je me dis ce qui est important, c'est qu'on ait un espace pour nous compter, en fait. Je pense à Alice Diop et son film documentaire Nous, qui vient d'avoir la Berlinale et l'Encounter à Berlin,
ouais.
Qui finalement est un endroit où elle parle du 93, elle parle de la banlieue, mais à travers son histoire, elle, en tant qu'artiste, cinéaste. Et je pense qu'il y a pour moi, du même ordre de se dire qu'en fait, cet espace-là est un endroit qu'on peut investir pour compter nos récits. Et qu'il y a un endroit où le documentaire peut par moments me gêner parce qu'en fait, il y a une dynamique où on serait les premiers, alors qu'en fait, il y a Colline Serrault qui, en 2000, avait déjà fait La Chauve-Souris. Elle a mis en scène La Chauve-Souris avec des danseurs hip-hop, en fait.
Ouais.
Donc, c'était pas la première fois qu'il y avait du hip-hop à la Bastille. Et ce qui est important, c'est d'essayer de casser l'idée d'exceptionnalité, d'être dans l'apprentissage. Parce que finalement, ce qui est important, c'est comment on s'inscrit dans une grande histoire et qu'à l'intérieur de ça, on ne gomme pas celle qui a déjà été initiée. Et pour moi, ce documentaire, il y a un truc où il nous met à l'endroit droit d'être initiateur de quelque chose qui a déjà été fait. Et ce qui est important, c'est comment cette histoire-là, elle est en continuité. C'est pas quelque chose qui s'amorce et qui s'avorte.
Ça se voit très bien dans ce film Anne Galland qui sort mercredi prochain. Et maintenant, on part au Liban.
Ici, on voit la nébuleuse d'Orion. Et là, la grande galaxie d'Andromède. En revanche, je ne trouve pas la Suisse. Vous savez ce que vous allez faire quand vous aurez terminé votre mission? Vous comptez retourner vivre dans votre pays?
C'est dur à expliquer, mais je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Je vais peut-être voyager un peu dans la région si je ne trouve aucune raison de rester ici. Et vous? Pas des rêves de voyage?
Si. Mais pas sur Terre.
Ah.
Vous allez penser que je me moque de vous. À l'université, avec mes collègues, je suis en train de travailler sur un projet de fusée. On est encore au début des recherches, mais j'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. Vous trouvez ça farfelu?
Mais non, non, au contraire, j'y comprends très bien. Votre fusée?
Oui.
Quand elle sera prête, vous m'inviterez à son lancement?
Dans les années 50, Alice et Alba Rohrwacher quittent la Suisse pour le Liban, rencontrent Joseph, c'est vous, Wajdi Mouawad, un astrophysicien. Sous le ciel d'Alice, l'histoire d'une famille, celle que vont former, donc construire et construire Alice et Joseph, et l'histoire d'un pays où la guerre civile a tout interrompu dans ce bonheur familial. En 1975, Chloé Maslow a grandi avec le récit, elle, de ses grands-parents. Et vous, Wajdi Mouawad, vous aviez 9 ans quand votre famille a quitté le Liban à cause de la guerre civile. Le film, aussi poétique soit-il, est-ce qu'il est une façon pour vous de revivre cette histoire?
Oui, bien sûr, parce que ce qui est étonnant, c'était une énorme Madeleine de Proust, le tournage.
Oui.
Ah ouais, parce que le personnage que je joue est de la même génération que mes parents.
Mmh.
C'est-à-dire, mon père est né en 1928, ma mère en 1932. Et l'action se passe au début, à un moment donné, elle se passe dans les années 60. Donc, ce qui était vraiment déjà extrêmement bouleversant pour moi, parce que mes parents sont morts. C'était aux essayages de costumes.
Mmh.
Parce qu'évidemment, vous voyez comment je suis habillé, mes parents s'habillaient pas comme ça, voilà. Et donc là, aux essayages de costumes, on met un pantalon des années 60, on met une chemise, une cravate, et je me regarde dans le miroir, je vois mon père, et ça c'était vraiment très émouvant, très très émouvant. Et puis tout le reste c'était comme ça, c'est-à-dire quand on était sur le plateau, tout, la table, la nappe, le plastique sur la nappe, les petits accessoires, tout, c'était que une énorme Madeleine de Proust. Et ce qui était vraiment aussi un moment dans le tournage, il y a ce moment où la guerre civile commence officiellement, à dire. Mais à ce moment-là, évidemment, on savait pas que la guerre civile commençait, c'était un événement. C'était l'attaque, c'était l'attaque de l'autobus rempli de civils palestiniens, qui a été attaqué par des phalangistes chrétiens. Et cet autobus qui s'est fait attaquer, je l'ai vu, c'était en bas de chez moi. Et j'avais 7 ans, je jouais sur le balcon et j'ai vu cet autobus se faire attaquer. Et quand on a tourné cette séquence, l'appartement des personnages est situé de l'autre côté de Beyrouth. Et donc il y a cette image où on est rassemblés, on regarde au loin le feu, les crépitements. Et là, j'ai dit aux acteurs libanais qui étaient avec moi, je dis c'est dingue parce que en ce moment je suis là-bas et j'ai 7 ans. Et donc ouais, c'était vraiment le tournage. Et puis la délicatesse de Chloé, qui a eu c'est une intelligence et d'une finesse de s'être positionnée exactement à l'endroit de sa grand-mère, qui est une étrangère qui arrive au Liban. Donc à aucun moment elle s'est positionnée dans le Libanais qui connaît la guerre du Liban. Elle s'est positionnée plutôt du point de vue de Alice, que Alba interprète, qui non seulement découvre le Liban, mais qui en tombe amoureuse, plus même que les Libanais, je dirais, à la limite. Et le film s'articule dans cette relation entre cette femme qui s'attache à une terre au moment où tout le monde veut la quitter parce que c'est la guerre, et elle se bat pour rester avec sa famille, son mari et ses enfants.
Mais à la différence de votre père qui a décidé de partir, votre personnage dans le film, au début, il n'y croit pas. Et puis, c'est son métier qui veut ça, mais il est dans les étoiles, il veut qu'un Libanais aille dans l'espace, il pense à ça, mais ça ne le touche pas au début.
C'est pas que ça ne le touche pas, enfin, mais...
C'est en même temps, c'est un vrai pari pour le Liban. Enfin, c'est un côté très important, socialement, politiquement.
Alors déjà, ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'aucun Libanais, très très peu de Libanais savent qu'il y avait un programme spatial libanais. Oui. Et la question c'est de se poser, mais pourquoi on ne savait pas ça? Pourquoi on n'a pas su ça? Parce que ce programme spatial libanais, où ils ont été très très loin, a été interrompu par les Américains, les Russes, parce que quand ils ont vu que commençait vraiment à fonctionner, ils l'ont interrompu. Et non seulement ils l'ont interrompu, mais ils en ont effacé l'histoire. C'est vraiment très compliqué de savoir l'histoire. Mais et puis, donc il y a ça, il y a donc ce personnage qui porte en lui une utopie pour lui, pour son peuple, et pour son époque. Mais aussi la guerre civile. La guerre civile libanaise, aujourd'hui on en parle, c'est pas compliqué la guerre civile. Si quelqu'un arrive à vous l'expliquer, c'est qu'il ne vous l'a pas bien expliqué. C'est pas compliqué, c'est vraiment, la guerre civile libanaise c'est un poulpe, c'est vraiment une espèce de... C'est avec des tentacules partout. Voilà, c'est, et les personnages à ce moment-là, d'ailleurs on ne parlait pas de la guerre, on parlait des événements. On dit c'est des événements, parce que c'est comme le coronavirus, c'est-à-dire on se disait ça va s'arrêter, et puis ça continue, et puis ça va s'arrêter. Donc le personnage de Joseph a un rapport à la guerre, comme nous l'année dernière, on a eu un rapport avec le coronavirus, exactement le même. Oui, ça va pas durer, ça va continuer, oui, mais peut-être, on va peut-être arriver, mais peut-être qu'on va se débrouiller, on va enlever le masque, on va peut-être enlever... C'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Pour moi, ce qu'on vit avec le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le confinement peut-être, etc., c'est une espèce de retour à cette guerre civile. Or, le personnage qui voit le plus clair, c'est Alice.
Oui.
Et elle, c'est clair, il faut pas quitter le pays, il faut rester ensemble, il faut... Ce n'est pas parce qu'on quitte le pays qu'on va fuir la guerre. Au contraire, on amène sans le savoir dans nos bagages la guerre qui se mélange à l'exil. Et là, ça devient un truc un peu compliqué. Donc ce rapport-là du départ, et qui n'a pas fini encore aujourd'hui, des Libanais se posent la question, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on s'installe, c'est une question sans fin. Et c'est là où le film est vraiment extrêmement émouvant, c'est qu'on voit que c'est une étrangère qui voit clair.
Votre père, dans la vraie vie, avait fait 5 visas par enfant et en fait a choisi le premier pays, le premier avion qui partait pour ce pays. Il se trouve que c'était la France, mais vous auriez pu être...
En Italie.
Oui, ou américain.
Voilà, mais surtout italien, parce que à ce moment-là, mon père avait fait faire surtout 2 visas qu'il renouvelait régulièrement au cas où il faut partir très vite.
Ouais.
Et le jour où nous avons décidé de partir très très vite, mon père envoie mon frère en disant « va acheter un billet soit pour la France, soit pour l'Italie, prends le premier vol ». Mon frère part, il revient, il dit « bah, il y avait un vol pour Paris à 10h30, il y en avait un à midi pour l'Italie, j'ai pris pour Paris ». Comme on ne devait partir que 3 mois, ça n'avait pas d'importance. Mais s'il avait fallu qu'on parte en Italie, c'est-à-dire à cause d'un horaire d'avion, finalement on s'est retrouvé en France, j'ai appris le français. Voilà. Donc je passe mon temps à me demander « mais quel Italien j'aurais été ?»
Oui.
Et ça donne aussi un rapport à la vie complètement aléatoire. C'est-à-dire, je me dis toujours qu'en ce moment, il existe un Wajdi italien qui est en train de vivre sa vie. Et quand ça va mal dans la mienne, je me dis peut-être que ça va bien dans la sienne. ça relativise.
Du relative, oui,
et pourtant, ces 9 années là-bas, elles irriguent toute votre œuvre.
Ah oui, bien sûr, parce que... Je pense qu'on s'arrête de grandir à l'âge du traumatisme. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté de grandir à 7 ans. J'ai toujours 7 ans. Et donc, je pense que vous allez toujours faire un film sur votre père. Et plus le temps avance, pire c'est. C'est-à-dire, on se dit que bon, on va peut-être bientôt arriver à finir. Non, parce qu'on s'arrête. On s'arrête. On sait pas qu'on s'arrête, mais on s'arrête à l'âge du traumatisme. Et après, on grandit, parce que le corps grandit, parce que l'esprit se développe, mais il reste en nous un enfant qui a arrêté de parler. Et quand on fait un film, ou quand on fait une pièce de théâtre, on s'exprime pour cet enfant qui ne peut plus parler. Et ça, c'est sûr que on dit, ouais, il revient toujours au truc. C'est pas qu'il revient toujours au truc, c'est pas ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est comme si vous étiez assis sur une chaise, on vous dit vous n'avez pas le droit de bouger et vous ne pouvez faire qu'avec ce que vous avez à portée de main. Ben moi, là, en ce moment, ce que j'ai à portée de main, c'est une bouteille, un gobelet, un masque. Et bien voilà, toutes les pièces, je devrais le faire avec le gobelet, le masque et la bouteille d'eau. Et c'est tout parce que je peux pas me déplacer. Et on est fixé à cet endroit.
Oui.
Hein? C'est ça le tournage qui a été vraiment émouvant, parce qu'il y avait les autres acteurs libanais qui sont venus du Liban. On s'est retrouvés à revivre des histoires que nos parents ont vécues, à comprendre ce que nos parents ont vécu pendant la guerre. Parce que dans ce film, je joue un père. Je joue un père avec Alba, on joue un couple qui voyons ses enfants grandir, sa fille grandir, et puis décider de partir, et la douleur de ça. Et ça m'a permis de comprendre ce que mes parents ont vécu quand moi j'étais enfant. Il y a aussi ce qui était... C'est la mémoire du corps.
Oui.
Parce qu'il y a des scènes où nous sommes... on est assis sur un escalier, et puis il y a des bombes qui tombent. Et tous les Libanais qui faisaient cette scène, tous, on a... Je pense que Chloé n'a pas eu grand-chose à nous dire. C'était vraiment, vous vous asseyez, il y a les bombes qui tombent. On avait les mêmes attitudes. C'était, comment dire... Puis c'est paradoxal, parce que c'est une période heureuse. Moi, les abris, c'était vraiment une période très heureuse.
D'ailleurs, il y a un truc fou là-dedans. Une petite fille qui fait une définition de mot croisé, elle lui dit un endroit pour des fous, et vous répondez en 5 lettres, vous répondez asile, vous auriez pu répondre Liban.
Absolument. Oui. Tout à fait.
Mais il faut insister sur le film, sur le fait que le film dit des choses aussi graves que ce que vous venez de dire, et en même temps, il le fait de façon sinon légère, du moins avec la distance nécessaire. Par exemple, votre personnage, on peut aussi penser à une sorte de Trifon Tournesol.
Oui, tout à fait.
Et c'est cette dimension-là qui est formidable. Il incarne le Liban et en même temps, c'est un tournesol.
Ça, je crois que c'était vraiment la volonté de Chloé d'être à l'endroit... À l'endroit qui est le sien. Et surtout, je pense, elle nous a beaucoup parlé de sa grand-mère, parce que le film est vraiment inspiré de l'histoire de sa grand-mère suisse qui va au Liban et qui tombe amoureuse du Liban et qui rencontre un Libanais. Et Chloé est issue de cette rencontre, on va dire, par ses parents. Et Chloé, par exemple, je lui disais, mais pourquoi Alba et moi, on forme un couple, mais... Je veux dire, on se touche jamais, quoi. Il n'y a pas de contact. Elle dit, ah non, hors de question, parce qu'il y avait une telle pudeur, une telle pudeur dans le personnage de sa grand-mère et de son grand-père. Ouais. Telle pudeur, une telle délicatesse. Ouais. Et je crois que c'est cette pudeur et cette délicatesse qu'elle a voulu, par tous les moyens du cinéma, par l'animation, par la lumière surtout, par les rapports, par les silences, par le peu de mots, qu'elle a voulu incarner cette pudeur et cette délicatesse. Et je pense que c'est ça qui donne un rapport particulier. Parce que c'est un film sur la guerre du Liban, mais au lieu d'y aller avec la guerre, etc., elle y va avec une plume.
Absolument.
C'est ça qui est très beau.
C'est magnifique.
Ouais, je dis, moi, dans ce film Sous le ciel d'Alice qui sort le 30 juin, on se retrouve pour les sorties après Ben Harper. On a peu de temps pour les sorties. On va commencer par Un premier film signé juste Philippot qui s'appelle La nuée, difficile pour Virginie de concilier sa vie d'agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauteries, des sauterelles comestibles.
Mais peu à peu. C'est pas mal. C'est
artenu. Ah, j'adore ce lapsus. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent pas. Non, un film et un propos qui réussit à engager dans le même sujet la condition paysanne, la précarité, la famille, une nouvelle forme d'alimentation, le tout recouvert d'un voile fantastique, un fantastique élégant et jamais surligné, mais angoissant. Ça s'appelle La Nuée et ça révèle cette comédienne assez extraordinaire qui s'appelle Souliane Brahim. Cinquième set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz qui incarne un tennisman qui, à 38 ans, essaie de revenir sur le court.
Il incarne surtout le 245e joueur mondial. Oui. C'est ça sa position. Donc ça le met vraiment dans une situation de déclassement total. Et après Guy, vous savez, ce film avec Alex Lutz, ce vieux chanteur, là, c'est un vieux tennisman. Et décidément, Alex Lutz arrive à incarner ces personnages qui sont tout de mélancolie et de rêves fracassés avec une maestria, mais c'est ce qu'il fait est absolument sidérant. On peut détester le tennis et adorer 5e set.
Douce France de Geoffroy Coinon. Alors, où comment trois adolescents, Amina, Samy et Jennifer, lycéens Villepinte dans le 93, vont s'éveiller à la citoyenneté? C'est absolument passionnant. Face à un projet de 3 milliards d'euros, celui d'Europa City qui doit urbaniser 280 hectares de terres agricoles pour implanter près de chez eux commerce et loisirs, ces trois lycéens, d'abord séduits par les paillettes du projet, vont enquêter auprès des agriculteurs, prendre conscience de la place de l'alimentation dans leur vie. Ils vont aussi croiser commerçants, entrepreneurs et politiques, poser des questions, réfléchir, réagir, avec beaucoup d'humour parfois. On ne pourrait pas mieux illustrer la naissance d'une conscience politique, trois lycéens contre 3 milliards. Au-delà des salles de cinéma, 12 francs devrait être montré dans toutes les écoles comme un document, un moteur, un exemple de démocratie directe.
Tout est très modeste dans ce film, oui. Et au bon sens du terme, c'est pour ça que je le conseillerais à Cyril Dion et Mélanie Laurent.
16 printemps, le premier film de Suzanne Lindon. Suzanne a 16 ans, elle s'ennuie avec les gens de son âge. Tout pourrait être contre ce film, l'ascendance de la réalisatrice et deux acteurs connus, la futilité du propos, le milieu surprotégé, l'absence de réelle dramaturgie. Et pourtant, l'ensemble est doux et comme un petit vent frais, une promesse.
Oui, je suis d'accord. On peut avoir des réserves sur, hélas, l'acteur masculin, le principal. Bon, mais ce que fait Suzanne Lindon, notamment sur le fait de montrer des corps nus, elle n'en a pas envie. Ce qu'elle fait, tiens, c'est de la chorégraphie et ça vous plairait beaucoup. Ce qu'elle fait est vraiment très très intéressant. C'est un premier film prometteur avec des maladresses, mais comment pourrait-il en être vraiment?
Sound of Metal de Darius Marder, c'est un premier film. Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les États-Unis entre deux concerts de métal. Un soir, Ruben est gêné par les acouphènes et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. C'est une odyssée sensorielle dans un handicap grâce à un travail assez remarquable sur le son justement et sa perception. Rarement un film nous aura fait vivre cette expérience traumatisante. C'est ce qui reste de ce film au scénario assez consensuel face à l'énergie déployée sur le ressenti et aux qualités de l'acteur Riz Ahmed. 143 rue du désert, ça va vite, de Hassan Ferhani. C'est en plein désert algérien, dans son relais, un espace de 20 mètres carrés. Une femme écrit son histoire, elle accueille pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves. Elle s'appelle Malika, elle a 74 ans.
C'est un formidable documentaire, parce que cette femme est incroyable, effectivement. Elle est au centre d'un monde, d'une sorte de Bagdad café, mais qui aurait beaucoup plus de charme que le vrai. Et c'est tout à fait étonnant la façon dont, au fond, c'est aussi évidemment ce lieu créé ex nihilo, un portrait de l'Algérie d'aujourd'hui avec tout ce qui s'y passe. Non, c'est un très beau documentaire. Ça s'appelle, on le rappelle, 143 rue du désert.
Encore un documentaire incroyable. Il n'y aura plus de nuit de Éléonore Weber. Des images vraies provenant d'hélicoptères sur le théâtre des opérations. Les hommes qui sont visés ignorent qu'ils le sont. Ils n'ont pas repéré d'où venait la menace. L'intervention a lieu sous nos yeux. Celui qui filme est également celui qui tue. C'est absolument glaçant.
C'est éprouvant, mais au bon sens du terme, je crois qu'il faut éprouver ça, le voir, il faut voir les réalités en face. Ça se passe en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Maintenant, de nos jours, c'est effectivement la guerre absolument désincarnée. Et Éléonore Weber, se fondant sur les paroles d'un pilote d'hélicoptère français, dont les commentaires sont notamment lus merveilleusement par Nathalie Richard, ça donne vraiment à voir, à réfléchir sur toutes ces images virtuelles. Mais ça n'est pas virtuel, parce que derrière, il y a des morts. Il y aura plus de nuit.
Sur la guerre et la technologie.
C'est beau, très beau propos.
Deux films dont on a parlé la semaine dernière, mais cette perle noire et un grand acteur, Vincent Macaigne, au milieu, c'est Médecin de nuit de Elie Wajsman. Les deux Alfred de Bruno Podeïdès, merveilleuse comédie sur l'époque connectée ou comment regarder le monde avec un humour irrésistible, une poésie, un esprit proche de celui de Capra et de grands acteurs, les deux Podeïdès, Bruno et Denis et Sandrine Kiberlin.
Et le 23, 24, 25 juin, on est à Rochefort pour les Sœurs Jumelles, musique et images, avec notamment une création musicale d'Alex Baupin, Musica, avec Françoise Fabian.
Et une grande reprise, Une vie difficile de Dino Risi.
Oui, on ne peut que vous conseiller d'aller le voir, mais on est pressé, voilà. Mais allez le voir aussi, les reprises en salle sur grand écran, ça vaut le coup.
Enfin, un cadeau par invité. Là, on a un petit peu plus de temps.
Allez, pour Bintou Dembélé, d'abord, L'héritière de William Wyler. C'est un film avec Olivia de Havilland. C'est d'après Henry James, pardon, j'ai arrivé à le dire. Et c'est un magnifique film hollywoodien. Ça apparaît d'ailleurs dans une collection qui s'appelle Cinema Masterclass, la collection des maîtres. C'est chez Elephant Film, comme les trois films aujourd'hui. C'est en combo Blu-ray DVD. Il y a beaucoup de bonus passionnants et c'est un superbe portrait à la fois de femme et d'actrice.
Voilà.
Pour vous, Samir Ghesmi, Nazarin de Luis Buñuel. Voilà, oui, vous avez l'air surpris. avec Francisco Rabat, n'y voyons aucune allusion, c'est un prêtre mexicain. C'est la grande période mexicaine du maître Don Luis Buñuel. Et c'est un film tout à fait étonnant, avec un portrait plein de paradoxes pour ce prêtre. On sait les opinions de Buñuel en la matière, mais ça fait vraiment partie des grands films de Buñuel et un grand personnage de fiction, ce Nazarin. On est heureux de vous offrir avec Elephant Film. Pour vous, Wajdim Wawad, Cérémonie secrète de Joseph Losey. Grand film, évidemment, avec juste un petit casting, Elizabeth Taylor, Robert Mitchum et Mia Farrow. Voilà, avec ça, on est servi. les trois chez Elephant Film, je le rappelle, des combos Blu-ray DVD.
Merci Wajdim Wawad, vous êtes à l'affiche du Sous le ciel d'Alice qui sort le 30 juin. Merci.
Merci.
Bintou Dembélé à l'affiche, donc Anne Galante, mercredi prochain. Merci Samir Ghesmi.
Merci.
Bravo pour votre première réalisation, ouais. Ibrahim. On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs, des réalisatrices et des acteurs et des actrices.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurane Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, j'y étais.
Et moi, Bintou Dembélé, j'y étais.
Et moi, Samir Ghesmi, j'y étais.
Et moi, Wajdim Wawad, j'y étais.